Évidemment, il faut parler de baseball, il faut parler de cette soirée, 50e anniversaire de la Fondation des Expos de Montréal. Cette soirée, on peut dire hommage à Charles Bronfman qui, en août 68, a obtenu l'aval du baseball majeur pour que Montréal obtienne une équipe du baseball majeur. Il l'a obtenu, un montant de 10 millions. À l'époque, c'était pas grand-chose, mais c'était beaucoup pour l'époque. Mais aujourd'hui, on parle de plus de plusieurs millions de dollars. Ça va friser le milliard, peut-être deux, même le retour éventuel des expos. Alors évidemment, quand M. Charles Bronfman se déplace à Montréal, ça fait parler. En plus, quand il se déplace avec son fils Steven Bronfman, qui est à la tête d'un groupe qui veut ramener le baseball à Montréal, et cette soirée-là, des 50e anniversaire de la Fondation des Expos, a réuni des joueurs, Steve Rogers, entre autres, André Dawson. Il y a eu également Bill Lee qui était là. Madame la mairesse Valérie Plante était présente à cette soirée. Denis Coderre également. Il y avait Derek Aucoin qui assiste à l'émission à cette soirée-là. Il y a eu Mac Griffin, Claude Raymond. On les a tous ou à peu près vus. Et je pense que c'est près de 300 personnes qui étaient réunies pour célébrer finalement le baseball. Et il y a aussi notre collègue Jérémy Filosa qui est allé faire son tour. Alors, on veut savoir ce qui s'est passé sur place, parce que là, il y a des gens qui disaient qu'ils vont annoncer des choses, puis ils vont avoir une table, puis ils vont être tous là, puis ils vont peut-être annoncer la première pelletée de terre. On va saluer Jérémy Filosa. Bonsoir, Jérémy.
Salut, Yannick.
Bon, il s'est passé quoi, là, ce soir, à cette soirée-là? Y a-tu des grandes annonces? Qu'est-ce que t'as retenu comme information?
Non, il n'y a pas eu d'annonce par rapport à ce qui s'en vient avec les expos. Mais pour ceux qui suivent le dossier de près comme moi, ben il y a eu quand même des informations qui sont sorties qui sont très intéressantes, très pertinentes. Par rapport au fait que M. Bronfman et aussi la compagnie de Vimco en sont venus à une entente pour le développement du terrain. C'est une excellente nouvelle. On sait que cet hiver, la presse avait écrit un papier indiquant que Vimco voulait développer le terrain, puis qu'il y avait plus d'un acheteur potentiel, puis qu'on allait justement se nuire plus que d'autres choses. Et finalement, bon, on a vu qu'il y avait quand même un désir mutuel de travailler ensemble, mais bon, à partir d'avoir un désir mutuel de travailler ensemble pour développer le terrain de Vimco du côté commercial et résidentiel et aussi Claret du côté du stade, mais là, il fallait que les deux côtés acceptent de travailler ensemble et en viennent à une entente. Ben, on a une entente, ça c'est une excellente nouvelle.
OK. Jérémy, juste pour je te crois là, mais si tu veux, on va écouter l'extrait que tu nous as fait parvenir quand oui. Stephen Bronfman le dit qu'il y a un deal avec Devimco. On l'écoute puis on vient.
Parfait. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire aujourd'hui que entre Devimco et vous, c'est réglé, que vous avez une entente?
Oui, on a une entente, on travaille ensemble, on fait des plans, on travaille même avec le table de concertation de cet endroit-là. Il va y avoir des discussions publiques, je pense, en automne. Soit on prépare nos plans et ça bouge. Ça bouge, écoute. Il y en a quelques affaires, on ne peut pas parler, mais ça bouge toujours.
Donc vous avez une entente avec Devimco pour développer le terrain, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Oui,
OK.
Oui.
Et pour ce qui est de la vente comme telle du terrain, quand est-ce que vous nous aviez parlé de cet été, est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient bientôt?
Oui, des annonces vont venir assez bientôt.
Vous êtes toujours confiant que ça prospère pour cet été?
Ça bouge.
Avez-vous un chiffre en tête? Est-ce que vous savez combien ça va vous coûter?
Mais ça, c'est... Il y a des négociations avec Canada Land.
Ouais.
Mais c'est Serge qui est en charge parce que c'est lui qui va être... Nous autres, on est des partenaires financiers. Serge, c'est le développeur. C'est dans ses mains-là.
Donc, c'est Devimco qui va acheter le terrain.
C'est ça, exactement.
Oui, ça, effectivement, c'est un élément d'information parce que, rappelle-toi, la toute première fois où M. Bronfman avait dit « on est intéressé », il y a M. Pierre Boivin qui s'en va auprès des lobbyistes pour avoir le terrain. Devimco, quelques jours plus tard, s'était manifesté pour dire « non, non, moi, je veux pas de stade, je veux construire un complexe immobilier puis tout ça ». Donc là, on se réunit ensemble pour construire finalement et permettre à cet endroit-là de la ville de Montréal de véritablement se revitaliser.
Oui, bien là, écoute, vous l'avez entendu, il va y avoir des consultations publiques qui débutent demain et qui vont probablement se terminer à l'automne. Mais tant et aussi longtemps que ces consultations publiques-là n'ont pas été complétées, je pense qu'il n'y aura pas de transaction possible. Donc, on discutait avec M. Bronfman, mais je me suis fait expliquer un peu plus tard que ce sera vraiment impossible avant la fin des consultations. Donc, je pense qu'il faut viser au plus tôt cet automne pour que la transaction ait lieu. Le terrain appartient à Canada Land, donc le gouvernement fédéral, et donc c'est eux qui devront vendre ce terrain-là. Comme vous l'avez entendu, Stephen Bronfman nous l'a expliqué, ça passerait par Devimco. Pourquoi? Bien, ce serait logique parce que tant il y a aussi longtemps qu'on n'a pas de confirmation du baseball majeur comme quoi une équipe s'en vient, bien, Devimco, eux, équipe pas équipe, stade pas stade, ils vont le développer le terrain. Il va y avoir des condos, il va y avoir des restaurants, il va y avoir des boutiques et tout ça. Mais à partir du moment où on annonce qu'il y a une équipe qui s'en vient, bien, c'est là que le partenariat rentrait en place, selon moi. Donc, ça fait seulement du sens pour moi que ce soit Devimco qui officiellement prenne ce dossier-là en main et soit l'acquéreur officiel.
OK. C'est ce qui est ressorti véritablement de cette soirée-là, de ce point de presse-là, de ta rencontre avec Stephen Bronfman. À part ça, t'as rencontré des anciens joueurs qui étaient là, t'as rencontré également des gens qui voulaient rendre un certain hommage à Charles Bronfman parce que c'est un hommage à lui ce soir, en quelque sorte.
Oui, bien, définitivement. Écoute, c'est lui qui a mis son argent. C'est lui qui a été le précurseur, qui a décidé, oui, on va y aller, on va embarquer dans ce projet-là qui coûtait, comme tu l'as mentionné, 10 millions de dollars. Donc, écoute, si tu le veux bien, on peut écouter Claude Raymond sur ce qu'il a vu et ses impressions lorsqu'il est arrivé avec les Expos et ce club-là qui était géré justement par M. Bronfman.
C'était de la classe, de la grande classe, parce que moi, quand je suis arrivé des Braves d'Atlanta, je suis arrivé ici le 19 août 69, je me suis aperçu tout de suite. Et quand on allait sur la route, c'était des hôtels de première classe. Les avions étaient des avions nolisés. M. Bronfman, à chaque automne, il invitait les joueurs et les instructeurs qui étaient ici vers la fin de saison, chez eux. Ils faisaient un party chez eux. Et à tous les mois de décembre, ils faisaient, au Ritz-Carlton ou au Reine-Élisabeth, ils faisaient un gros party pour les médias, pour des fans et tout ça. C'était un monsieur qui aimait aller première classe, puis il a toujours été comme ça.
Toujours de première classe, Jérémy, mais jamais vouloir être sous les projecteurs. T'sais, faire son travail dans l'ombre, mais sans en retirer véritablement ce qui vient avec.
Oui, bien même encore une fois, on l'a vu aujourd'hui. Là. C'est pas un gars qui veut avoir toute l'attention. Il aime parler de baseball. Je te dirais qu'il aime peut-être mieux parler de son fils que de parler de lui-même. Hein? Il parle des projets de son fils. Il parle du travail que son fils accomplit. Et justement, on lui a posé la question, quelles sont les chances, selon toi, de voir ton fils réussir ce coup de force et ramener les Expos à Montréal? Je crois, si c'est pas trop loin, on peut faire passer la clip numéro 5 pour entendre ce qu'il avait à répondre là-dessus.
I think he's got a damn good chance of pulling it off, he and his group.
Right.
But let's see, you know, in the sports world, like in anything else, you never know from one day to the next what's going to happen.
C'est ça, tu sais.
I think he's got a pretty good chance, a darn good chance, to pull it off. Donc, je pense qu'il y a une excellente chance de réussir le tour de force. C'est quand même des propos forts venant du père de l'homme qui est impliqué dans ce dossier-là et qui connaît, là, regarde, croyez-moi, là, il connaît le dossier de A à Z, là. Il est pas dans les secrets, là. Il sait ce qui se passe, M. Bronfman. Là.
Et Jérémy, on a reçu les deux, Stephen et Charles Bronfman, à l'émission au 5 à 7 à RDS ce soir. Et ce qui le différencie, parce qu'on lui a posé la question, il a dit, la différence entre Stephen et moi, c'est que lui, il est patient. Il faut se rappeler une chose, c'est parce que c'est pas Stephen Bronfman et son groupe qui détient l'agenda présentement. C'est le baseball majeur qui dicte l'allure de comment ça va se passer pour les prochaines semaines, les prochains mois. Là.
Mais en même temps, je pense que Stephen Bronfman reconnaît qu'il y a une réelle chance. Sans quoi, là, il ne s'investirait pas comme il fait présentement dans des études de marché, puis des études de faisabilité, puis des projets. Il nous a dit qu'il travaille sur une maquette présentement. Je ne pense pas qu'il ferait tout ça pour rien. C'est parce que le commissaire doit lui dire, écoute, fais les choses en temps et lieu, fais les choses comme il faut, puis nous, on a bon espoir qu'on va pouvoir éventuellement ramener ce club-là à Montréal. Donc, oui, il est patient, mais en même temps, je pense qu'on lui donne des bons signaux. Écoute-moi le feeling que j'ai eu là aujourd'hui dans ce meeting-là, en parlant à tous ceux qui étaient présents et qui sont impliqués dans le dossier, c'est que on sent qu'on s'approche du but. On le sent vraiment. Sauf que on craint. On craint de dire quelque chose qu'on ne devrait pas dire. On craint de froisser le commissaire ou la mairesse ou les gens de Canada Land. On veut faire attention à ce qu'on dit publiquement, justement parce qu'on est si près du but et on ne veut pas qu'une déclaration ou même un geste fasse en sorte que tout cela tombe à l'eau. Donc, moi, je pense que c'est une bonne nervosité que j'ai sentie chez les hommes impliqués aujourd'hui là-bas. C'est la première fois que j'ai senti ça en leur parlant. Dans le passé, c'est soit qu'on n'avait pas grand-chose à nous dire, ou ben on nous annonçait publiquement où on en était rendu, quelles étaient les nouvelles choses. On a senti vraiment, lorsque les Blue Jays sont venus à Montréal cette année, M. Bronfman plus excité que jamais. Et là, ben j'ai le sentiment qu'ils le sentent, là. Ils sentent l'odeur, comme on dit, du barbecue, là, puis ils veulent juste pas brûler le steak. Ça ressemble pas mal à ça. Là.
Et il l'a dit aussi, tu parles des matchs des Blue Jays au mois de mars au Stade olympique, il l'avait dit, 2019, ça va être une grosse année. Alors, oui. On verra ce que ça va donner, mais il t'a aussi dit dans l'extrait que tu nous as présenté tantôt qu'il y avait une entente avec Devimco, qu'il y a des choses qui allaient être annoncées prochainement. Il faut être patient, mais il y en a des choses.
Oui, bien écoute, je pense que une des prochaines choses, ça va être sûrement la vente du terrain, mais comme j'ai dit, ça risque d'être à l'automne prochain. Je lui ai posé la question, quand est-ce qu'on va pouvoir voir la maquette? Mmh. Il a dit, écoute, c'est trop tôt. On a plus qu'une maquette, mais bon, on est au stade embryonnaire. Je lui ai posé la question, est-ce que les études de marché que vous avez fait l'année passée vous ont amené à certaines conclusions? Avez-vous, par exemple, pris la décision à savoir si oui ou non, ça allait prendre un toit sur ce stade-là? Et oui ou non, un toit rétractable ou quoi que ce soit. Et il nous a dit que c'était encore là, c'était trop tôt pour tout cela. Donc, on n'avait pas vraiment d'autres choses de concret à se mettre sous la dent, malheureusement, pour ce qui est là, du retour potentiel des expos. Mais bon, ça avance. Tranquillement, pas vite, ça avance.
Mais je vais te laisser aller après. Mais si vous avez la chance, puis je veux pas faire de la promotion, là, je sors pas mes trompettes puis tout ça, mais si vous avez la chance d'écouter l'entrevue qu'ils nous ont donnée à RDS, Stephen et Charles Bronfman.
Oui.
Charles Bronfman dit « Le stade olympique, je n'ai jamais aimé ça. » On est encabané pendant 6-7 mois. Le baseball, ça joue dehors. J'ai posé la question à Stephen Bronfman. Êtes-vous plus pour le toit ou contre le toit? Il dit, je suis ambivalent, mais ça a fonctionné 15 ans au Parc Jarry.
Oui. Ben écoute, sauf que les
Donc,
réalités ont beaucoup
ben,
changé.
Ben c'est ça. Mais je vais te dire une chose.
Dans le stade du Parc Jarry, là, ouais. Tu t'en allais au stade ou sinon, ben tu restais chez vous et tu n'avais rien d'autre à
exact.
Faire. Aujourd'hui, les gens, ils ont 150 000 autres choses à faire.
C'est sûr.
Si tu ne leur donnes pas des conditions optimales, ben il y a des bonnes chances qu'ils vont décider de rester chez eux, malheureusement.
Jérémy, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bon match de hockey, okay. Hein?
Merci beaucoup.
Puis,
salut.
Mets-en deux dedans, comme les Blues ont fait en première période.
Ça y est, je te garantis à vraiment rien.
Salut.
Salut. Bye.
Bye.